Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal à 8h avec Quentin Vinet. Bonjour mon cher Quentin.
Bonjour à tous. Des agriculteurs devant la maison des Macron ce matin au Touquet. Mobilisation contre le Mercosur malgré le report avant des réunions ce matin à Matignon et les blocages qui, vous le savez, continuent dans le sud-ouest le jour des départs en vacances. La plateforme Chine va-t-elle fermer en France? On aura la réponse de la justice aujourd'hui. Et les contrôleurs avec des caméras piétons ce matin à la SNCF et la RATP, c'est la nouveauté du jour.
Des agriculteurs manifestent ce matin devant la maison du couple Macron au Touquet.
Oui, on vous dit depuis ce matin sur RMC que la FNSEA, le premier syndicat agricole, appelle à poursuivre la mobilisation contre le traité avec les pays du Mercosur malgré le report, le répit qui a été accordé hier soir à Bruxelles. Et bien visiblement, a été entendu puisqu'une cinquantaine d'agriculteurs comme Benoît Tillier sont depuis très tôt ce matin devant la maison des Macron.
On est arrivé ce matin à 5h30 devant la résidence du président de la République pour faire part de notre ras-le-bol général. L'idée, c'est de mettre un coup de pression, clairement. Hier, à Bruxelles, il y avait une mobilisation contre le Mercosur. On a appris, donc, à la suite de cette mobilisation qu'il était reporté d'un mois. Mais notre objectif, il est clair, c'est qu'il n'existe plus. C'est inacceptable, clairement. Il nous prend pour des moins que rien. Et ben, on est venu lui montrer que c'était pas le cas et qu'on l'avait à l'œil.
Alors vous avez bien compris qu'il y a une double colère agricole. Il y a le Mercosur dont la date de signature du traité a été repoussée à janvier sous la pression à Bruxelles de la France et l'Italie. Le temps de changer la nature du texte, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron durant la nuit. Emmanuel Macron qui trouve ce texte mauvais pour les agriculteurs français. Et puis il y a toujours la question des abattages de troupeaux en cas de maladie bovine. Là-dessus, les positions n'ont pas changé cette semaine. La mobilisation continue. Les syndicats agricoles vont être reçus les uns après les autres à partir de ce matin. Ça a commencé non pas longtemps, à 8h30 à Matignon. Reçu par le Premier ministre Sébastien Lecornu, Thomas Becker du service politique à RMC en direct ce matin. Question, qu'est-ce qui va bien pouvoir leur dire?
L'objectif principal, clairement, c'est de faire redescendre la pression. Sébastien Lecornu va devoir, comme il le fait sur le budget, tenter de trouver une voie de passage. Il y a d'abord l'urgence, l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Ce matin, il va rappeler la stratégie du gouvernement, abattage des troupeaux contaminés et vaccination accélérée. Le gouvernement a d'ailleurs mobilisé des vétérinaires retraités et de l'armée. Face au Premier ministre, des syndicats très remontés, surtout la Confédération paysanne et la Coordination rurale qui attendent des concessions pour lever les blocages. Alors faut-il y voir un premier geste? Hier soir, le ministre Laurent Panifous, qui accompagnait Sébastien Lecornu à la rencontre d'éleveurs en Ariège, ne s'opposait pas à une évolution du protocole une fois que tout le cheptel sera vacciné. Un comité scientifique pourrait se réunir prochainement, une façon pour le gouvernement d'associer les éleveurs et d'apaiser la colère à moins d'une semaine de Noël.
Oui, alors le gouvernement à ce sujet dit ce matin qu'il ne tolérera plus de nouveaux blocages. Il y a d'ailleurs un campement qui a été évacué hier soir sur l'autoroute A20 au sud de Cahors, selon la préfète du Lot. Mais les autoroutes restent quand même fortement perturbées ce matin dans le sud-ouest, notamment la 63 et la 64 qui longent les Pyrénées et permet d'accéder aux vallées des stations de ski. Et il ne vous a pas échappé que c'est aujourd'hui le début des vacances scolaires. On s'en inquiète à Bordeaux, nous dit le correspondant d'RMC Pierre Bourgès.
Malgré le soutien qu'elle apporte aux agriculteurs, Marie, qui part skier dans les Pyrénées la semaine prochaine, a du mal à comprendre ce choix.
Autant les routes et tout, je peux être patiente, mais j'avoue que c'est mes seules vacances avec mes parents. Je pars reste 3 jours parce que je travaille le 30, donc ça m'embêterait un peu de ne pas pouvoir aller faire du ski avec eux, quoi. Je suis pas sûre que ce soit les bonnes personnes qui soient bloquées, en tout cas.
Un constat partagé par Maxime, qui profite aussi de Noël pour aller skier avec ses enfants.
Je pense que je serai un petit peu en colère, quand même, si j'arrive pas à monter. Si je suis ralenti, c'est pas très grave, mais si on peut pas y aller, ça va être embêtant. C'est-à-dire que là, je pense que les assurances fonctionnent pas trop.
Ces blocages pourraient coûter très cher aux stations qui s'attendaient à réaliser un très bon début de saison. Laurent Garcia, président des domaines skiables des Pyrénées, craint une baisse du chiffre d'affaires sur la période des fêtes de fin d'année.
À l'échelle des vallées des Pyrénées, c'est pas loin de 20 30% des recettes de l'hiver. S'il y a des difficultés à venir, je pense qu'il y aura au milieu des gens qui vont certainement se désister. On va tourner effectivement à bas régime et donc je suis inquiet effectivement sur les conséquences.
Conséquences déjà concrètes. Dans sa station à Péragude, les embauches de saisonniers supplémentaires prévues pour les fêtes ont pour l'instant été gelées.
Je précise que c'est une journée sur la route, journée classée orange dans le sens des départs, c'est même rouge en direction des Alpes.
Ouais, ça peut être pire, hein. Ça peut être pire selon les régions, selon les départements, selon les blocages. Alors on avait quand même la ministre de l'Agriculture dans la dépêche du midi qui demandait ce matin gentiment une trêve pour les fêtes. Là maintenant, on a la porte-parole du gouvernement qui dit nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages. Est-ce que c'est de nature à faire garer les tracteurs ou plutôt à mettre de l'huile sur le feu? Ça, c'est à vous de nous le dire au 32-16, bien sûr, ou sur le WhatsApp RMC.
L'autre sujet du sommet à Bruxelles, en plus du Mercosur, c'était l'Ukraine. Il était question d'utiliser les avoirs russes. Finalement, ça ne se fera pas, faute d'accord sur ce sujet également. Il a été décidé de prêter 90 milliards d'euros aux Ukrainiens. Emmanuel Macron affirme qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que d'autres le font, estime le président, sous-entendu les Américains, qui mènent en ce moment les pourparlers. Il y en aura de nouveau aujourd'hui, ça se passe en Floride. Donald Trump fait d'ailleurs pression en appelant l'Ukraine à bouger rapidement, c'est le terme employé dans les négociations pour mettre un terme à la guerre.
Autre dossier brûlant du moment, celui de la plateforme Chine.
Alors que le nombre de petits colis chinois explose en France, 5 fois plus en 3 ans, on en a parlé durant la semaine, la France veut fermer la plateforme après le scandale des poupées pédopornographiques qui étaient vendues sur Internet. Eh bien, c'est aujourd'hui que la justice va se prononcer sur cette suspension de 3 mois. Mais alors, Victor Joannin pour RMC, on peut déjà dire que ça paraît improbable.
Oui, même l'État a reconnu lors de l'audience que la suspension de la totalité du site serait disproportionnée. Mais la justice pourrait décider que la marketplace soit strictement contrôlée avant qu'elle ne rouvre pour éviter la présence d'autres produits illicites à l'avenir. Une marketplace que Shein a suspendue rapidement de son plein gré après la découverte des poupées pédopornographiques. Or, cette partie de la plateforme est importante dans sa stratégie de vente. Même si Shein ne touche qu'une commission sur les articles qui y sont vendus par d'autres fabricants, cette marketplace permet d'attirer une part importante des clients vers son offre pléthorique de vêtements et sa suspension explique sans doute, au moins en partie, les difficultés de Shein avec une chute des ventes de 45% dans les semaines qui ont suivi selon une étude de l'application de shopping Joco.
Déclaration du matin, Rachida Dati, elle a toute sa place au gouvernement. C'est ce que dit la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, à l'instant. Elle le dit parce que les domiciles, le ministère et la mairie à Paris de Rachida Dati ont été perquisitionnés hier pour des faits supposés de corruption. La ministre de la Culture qui est soupçonnée d'avoir perçu 290 000 euros d'honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne sans en avoir déclaré la provenance au Parlement européen. C'est une des nouveautés du jour. Les contrôleurs peuvent désormais vous filmer dans les trains à la SNCF, dans les transports en région parisienne, à la RATP. Quelques 11 000 contrôleurs qui peuvent désormais porter une caméra piéton et filmer lorsqu'ils sont en service, notamment quand ils sentent qu'une situation peut dégénérer, Lucas Laubert.
Une caméra bien visible sur le torse des contrôleurs déclenchée manuellement en cas de tension. Hugo est assez sceptique.
Je me sens pas forcément 100% à l'aise avec ce sujet. Je pense que c'est un élément qui peut générer un stress chez l'usager.
Le but est de protéger les agents. En cas de danger, ils devront avertir la personne contrôlée de l'activation de la caméra. Vincent n'y voit pas de problème, mais il déplore qu'un tel équipement devienne nécessaire.
C'est plutôt un constat d'échec. Un contrôleur, c'est une sorte de figure d'autorité. C'est dommage d'en arriver là.
Cette caméra rassure tout de même certains voyageurs, comme Ludivine.
C'est une très bonne solution parce qu'ils n'ont rien comme protection, ils n'ont pas d'armes. Des fois, c'est vrai que les fraudeurs haussent beaucoup le ton.
Pendant les Jeux Olympiques l'année dernière, des contrôleurs avaient testé cet équipement. Une vraie réussite pour Cyril Manac. Selon le secrétaire général adjoint de Force Ouvrière au groupe RATP, la caméra permet de documenter les agressions, mais surtout d'en éviter.
Cette violence n'avait pas dévolu aux voyous, mais aussi aux madames et aux monsieur tout le monde. Et donc, chez cette tranche de la population, la personne avait regardé à deux fois avant de déborder. Ça déclipse beaucoup de situations.
Le port d'armes non létal par les agents de sécurité comme le taser reste lui interdit car censuré par le Conseil constitutionnel.
Bon, et puis je vous signale que c'est un week-end de Coupe de France qui commence en football avec les 7 premiers 32e de finale qu'on vivra ce soir sur RMC. Ça ressemble un peu à la fête des voisins. On a tout un tas d'affiches régionales, par exemple Brest à Avranches, Guingamp contre Laval, Montpellier au Canet-en-Roussillon. Il y aura aussi Lens contre les voisins de Fény-Aulnois avec 7 anciens Lensois dans l'équipe de Fény.
Attention, Brest et Avranches, il y en a un qui est en Normandie, un qui est en Bretagne quand même.
Oui, mais ils sont voisins.
Qu'ils vont, le gagnant à Mont-Saint-Michel. Et le beurre salé.
Génial.
On fait comme ça. Merci Quentin Vidé.